toca a ti, toca a ti.
Salut à tous et bienvenue dans cette tribune de la presse. Nous commencerons avec les confrères l'actualité de la semaine qui s'achève. Nairobi, vous le savez, la capitale kényane, accueille depuis 2 jours 7 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale. Ils signent un pacte pour stabiliser la région des Grands Lacs, cela après 13 ans de conflits armés et sanglants. Le Congolais Joseph Kabila, nouvellement élu, représente la RDC. La RDC qui, par ailleurs, a fait la vedette de ce sommet. Ce pacte vient aussi trouver des conflits encore actifs dans le pays de la région et des groupes armés illégaux encore actifs aussi. Parmi eux, le groupe de Laurent Kunda et les soldats qui lui sont fidèles. Des affrontements entre ce groupe et l'armée régulière congolaise ont fait l'actualité en début de cette semaine. La question de règlement de cette crise divise la classe politique congolaise, nous en parlerons. C'est depuis lundi que les ministres du gouvernement de transition ont été appelés à ne conduire que les affaires courantes. L'ordre du président de la République a été rendu par son cabinet. Ce dernier souligne que la procédure de nomination d'un premier ministre est engagée. Cette désignation d'un formateur du gouvernement tant attendu a été commenté abondamment cette semaine par la presse. Dans ces studios, pour analyser alors toute cette actualité de la semaine, Benoît Cambéré, grand reporter à la revue catholique Renaître, Victoire Eyobi, rédacteur en chef du Forum des As, et au téléphone depuis Matadi, Don Pierron Toukani, journaliste indépendant, et en ligne depuis Kisangani, Célestin Bwanga Malekani, directeur des programmes à la radio-télé Amani. Célestin Bwanga, c'est pour la première fois que vous participez dans cette tribune. En tout cas, nous vous disons bienvenue si vous nous écoutez.
Merci beaucoup, merci. Je vous écoute 5-6-5.
Ok, bienvenue aussi à tous les habitués de cette émission. Nous le disions à l'instant, le sommet des chefs d'État d'Afrique centrale se clôture ce vendredi à Nairobi. Il se termine avec la signature du pacte de stabilité, de sécurité et de développement dans la région des Grands Lacs. C'est l'aboutissement de 4 ans de négociations entre les États de la région. Que contient cet accord? Paul Kaboba est l'envoyé spécial de Radio Okapi à Nairobi. Il parle de la substance même du pacte à Claude Kinza.
Le pacte même s'appelle le pacte de paix, de stabilité et de développement. Alors, cet acte en clair veut dire que les pays de la région s'engagent à ne plus se faire la guerre. En d'autres termes, c'est un pacte de non-agression. Il y a aussi le volet stabilité, cela veut dire que les pays s'engagent d'abord dans leur propre pays à remettre la paix, à éviter qu'il y ait des bandes armées qui opèrent dans leur propre territoire, que ces bandes armées n'aillent pas déstabiliser chez les voisins. Donc on voudrait que cette zone soit tout à fait stable dans les jours à venir. Le troisième aspect qui est le développement, ils appellent ça le développement économique et intégration régionale. Il faudrait que tous les pays du champ, qui sont 11, il y a le Congo, il y a l'Angola, il y a la République centrafricaine, il y a la Zambie, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a la République centrafricaine, tous ces pays doivent se connecter de façon à ce que leurs économies puissent fonctionner ensemble. Et ainsi, les peuples qui auront un intérêt dans ce qui se fait pourront renoncer à des actions violentes, à des actions non conformes au mode de vie actuel.
Merci beaucoup Paul Kaboba. Alors, Célestin Bwanga Malekani, vous êtes à Kisangani. Nous rappelons que vous participez pour la première fois dans cette émission. Vous êtes directeur des programmes à la radio télé Amani. Comment avez-vous analysé cette actualité avec la RDC qui a fait vedette à Nairobi?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je crois que le sommet de Nairobi est important dans la mesure où il aboutit à la signature du pacte de stabilité, de paix et de développement. Mais j'ai un peu de doute parce que on a oublié le Soudan. Le Soudan peut créer des problèmes en Ouganda, peut nous créer des problèmes aussi, peut créer des problèmes dans d'autres pays.
Non, je crois que les 9 pays limitrophes de la RDC sont présents.
Oui, ils sont présents, mais... Ah oui. Bon, merci beaucoup, mais... De par l'histoire, Nous savons que nombreux accords ont été signés entre les chefs d'État, mais jamais il n'a été suivi ni appliqué. J'ai vu à la télévision, quand le président Museveni parlait, le président Kabila esquissait un petit sourire. Et c'est un sourire de doute, un sourire d'approbation, de réprobation, je ne sais pas. Et quant à moi, il faut donner la chance à ce que cette conférence des pays des Grands Lacs qui a abouti aujourd'hui à un pacte de stabilité, de paix et de développement, puisse réaliser ses objectifs, à savoir la démocratie, la bonne gouvernance, le développement, la sécurité, l'intégration régionale.
Merci. Nous allons revenir à vous, Célestin Bouanga, dans ce studio à Benoît Cambéré. Vous êtes grand reporter au magazine catholique Renaître. Vous avez entendu Célestin Bouanga parler du sourire, en fait, du protocole aussi. Et on a noté aussi l'absence du président rwandais Paul Kagame, et Célestin soulevait tout à l'heure la sincérité sur ces pactes.
Écoutez, ça a toujours été le problème des accords et des pactes. Il faudrait pas, à mon sens, ergoter sur des attitudes, des absences. Faisons plutôt confiance. On peut interpréter le sourire du chef de l'État de mille manières. C'est peut-être un sourire de satisfaction, pourquoi pas, en entendant ce que le président Museveni disait. On peut dire également que l'absence du président Kagame peut poser... Ben non, ça peut être un problème de calendrier. Ce n'est que le deuxième sommet, avec un calendrier chargé, peut faire qu'il ne soit pas là. L'essentiel, c'est que cela soit un accord de tous les pays de la région des Grands Lacs étendue à l'Afrique centrale. Et ça, ça me paraît important. Et ce pacte de paix, je vais ici citer le pape Paul VI, n'est-ce pas, qui disait...
Oui, vous êtes de la revue catholique Renaître. Allez-y.
Le pape Paul VI qui disait que la paix est le nouveau nom du développement. Ça veut tout dire. Quand les pays voisins de la République démocratique du Congo sont en paix entre eux, c'est-à-dire que le développement doit suivre. Et tout le monde sait que la République démocratique du Congo vient de loin. Et de très loin. Et cette République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, est certainement la plaque tournante de tout le monde, avec 9 voisins, avec la dimension et les potentialités que ce pays engorge.
Nous avons en ligne depuis Matadi, Don Piero Ntoukani, journaliste indépendant. Alors, Don Piero, il y a l'observateur ici à Kinshasa qui a titré « Conférence internationale sur les Grands Lacs à Nairobi, la remise en valeur du barrage d'Inga au centre des débats ». Est-ce que vous croyez que la RDC a beaucoup plus à donner dans ce pacte que d'autres pays?
Moi, je suis de cet avis parce que, vous savez, du temps du maréchal Mobutu, on avait connu ce qu'on appelle la communauté des pays de Grands Lacs.
CPG.
Et dans cette organisation-là, je crois que la RDC, en ce moment, le Zaïre, avait beaucoup donné. Mais je voulais quand même dire un point sur cette conférence. Moi, je crois qu'il faut maintenant se rendre compte, est-ce que ceux qui tirent les ficelles de loin sont impliqués dans cette conférence? Car la plupart des conflits que nous connaissons en Afrique et surtout dans le pays des Grands Lacs ne viennent pas directement de chez nous. Il y a aussi des pays, d'autres pays, des pays lointains que je ne voulais pas citer ici, qui, dans l'ombre, tirent des ficelles. Je sais qu'une conférence comme ça ne peut se faire qu'avec l'approbation de ces messieurs-là. Mais je voudrais que cette fois-ci, nous soyons sincères. Comme vous venez de le dire, ce n'est pas pour la première fois qu'on a organisé des conférences en Afrique centrale et surtout dans le pays du Grand Lac. Cette fois-ci, nous devons être sincères. Quand nous voyons ce qu'il y a eu chez nous, les guerres que nous avons connues ici, ce sont les pays limitrophes qui nous ont attaqués. Donc, nous soyons sincères cette fois-ci que ceux qui vont signer cet accord soient sincères et que vous en finissez une fois pour toutes.
Voilà, et la sincérité, on ne pourra la vérifier que dans l'application de l'accord, bien évidemment.
Bien évidemment, oui, dans l'application de cet accord. Si nous voulons développer l'Afrique, si nous voulons développer les pays des Grands Lacs, que la paix, c'est ça, définitivement, et vous allez voir que nous allons prendre un élan terrible. Le Inga est là, le barrage d'Inga est là, nous avons l'électricité, et nous pouvons électrifier toute l'Afrique centrale, mais que la paix s'installe.
Nous vous retrouverons, Don Piero Ntoukani, dans ce studio également Victoire Eyobi. Vous êtes rédacteur en chef au journal Forum des As. On a vu que la RDC a fait la vedette à Nairobi, mais en même temps, on note que la RDC n'a pas pu arracher les grands postes, par exemple, des secrétaires exécutifs. Est-ce que c'est un échec de la diplomatie congolaise?
Je ne crois pas que ce soit un échec. Le grand message que la RDC apporte à tous ces pays qui sont réunis là-bas, c'est d'abord les élections qui viennent de se passer dans son pays, sur son territoire. Cela veut dire qu'il y a, c'est comme un point, un trou de comblé dans la recherche de la paix, de la stabilité, comme du développement dans la région. Donc c'est un grand pas. D'ailleurs, c'est pour cela que le chef de l'État congolais était très attendu dans ces sommets. C'est-à-dire qu'il y a un message très très fort qui vient d'être lancé par le Congo et qui doit avoir des rebondissements dans les autres pays de la région. Avant nous, vous savez, le Burundi avait donné l'exemple et c'était très bien. Maintenant, c'est la RDC. Nous pensons que cette dynamique doit continuer comme cela et qu'au travers des résolutions de ces sommets, qu'on puisse aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire voir comment chaque pays peut intégrer cela, comment chaque pays peut matérialiser la paix d'abord sur son territoire avant de garantir la sécurité, la paix dans les autres territoires. Je crois que les postes, ça viendra avec le temps, mais nous avons d'abord besoin, nous Congolais, de consolider ce qui vient de se passer chez nous avant d'avoir comment gérer les choses au niveau régional.
Voilà, Célestin Bouanga, vous êtes toujours avec nous en ligne depuis Kisangani, à l'est du pays. Les régions de l'est ont payé les prix de ces conflits dans la région des Grands Lacs. Et vous, vous êtes un peu avec les populations sur place. Est-ce que vous croyez que la signature de ce pacte va apporter des solutions aux problèmes qu'ont rencontré plusieurs populations?
Oui, je crois que il faudrait d'abord commencer à préparer la population parce que entre certains pays qui vont signer ce pacte de stabilité, de paix et de développement, il y a eu beaucoup de conflits qui ont généré beaucoup de blessures au sein de la population. Mais il faut beaucoup sensibiliser la population de sorte que qu'on puisse se préparer à cette nouvelle donne. Et je crois que si ça arrive à porter des fruits, ce pacte de stabilité, je crois que ça pourra aider nos pays à aller de l'avant et à se développer vite.
Oui, Benoît Kambéré, quel avantage pour les populations sur ce pacte de stabilité des populations surtout frontalières?
Je voudrais préciser que entre les populations, généralement, il n'y a pas eu grand problème. Je suis originaire d'une province frontalière, le Kivu. Je sais qu'à Bukavu, on continue à aller au marché à Changougou et à Kamembe. Je sais qu'à Goma, on continue à aller au marché à Gisenyi. Et les gens de Gisenyi continuent à venir boire la primus de Bukavu, la primus de Gisenyi à Goma. En principe, les peuples n'ont pas eu des problèmes. C'était plutôt des problèmes entre nos dirigeants. Mais effectivement, il est question qu'on redynamise ce qui avait été commencé. À titre d'exemple, ce sont les populations qui vont tirer profit du fait que le gaz méthane qui est extrait de l'autre côté du lac à Gisenyi soit également, à titre d'exemple, exploité à Goma. Ce sera des emplois que beaucoup de gens ont perdu avec toutes ces guerres et tout le reste. Et bon, si les deux pays s'entendent très bien, le trafic va encore reprendre. Il y avait des gens qui prenaient l'avion facilement à Kigali ou à Bujumbura parce que la route est bonne. Les échanges se feront et c'est les populations qui gagneront en fin de compte.
Alors, terminons ce premier point avec Don Piero Ntoukani. Vous êtes un peu à l'ouest, loin des régions frontalières qui ont payé les prix de ces conflits. D'après vous, quelle devrait être l'implication de la société civile dans l'application de ce pacte? Parce qu'on sait que dans son élaboration, la société civile a été également très impliquée.
Oui, la société civile, nous voulons une société civile dans l'ensemble du pays. Vous savez, il y a beaucoup de décisions qui se prennent Il faudrait que quand on y va pour discuter pour de pacte ou pour d'autres contrats, qu'on puisse associer aussi la société civile. La société civile qui représente directement, qui a un contact direct avec la population, doit s'impliquer sérieusement pour que qu'on arrête au niveau du gouvernement puisse réellement aboutir. Et c'est très important. Il ne faudrait pas que ces gens-là soient intéressés après que tout a été critiqué. Il faudrait dès le départ intéresser aussi la société civile. Je sais que cette conférence a été préparée depuis très, très longtemps, même si on a dit, on a reçu une délégation de gens qui sont venus préparer les gens pour ce genre de choses. Mais comme je le disais dans ma première intervention, il faudrait que tous ceux qui vont faire signer ces accords soient réellement sincères. C'est utile de faire des grands bruits autour d'une affaire, alors qu'après tout, on va aller commencer à répondre à ces armes. La présence, plutôt l'absence de M. Kagame, je crois qu'elle est quand même très importante, que ça a peut-être interprété une façon ou une autre. Vous avez parlé des problèmes du calendrier, vous avez peut-être raison, mais les gens voudraient, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qu'on puisse sentir de l'application que tout le monde est d'accord pour que la paix s'installe réellement en Afrique centrale.
Alors restez avec nous, Don Piero Ntoukani. Nous touchons le deuxième point qui a fait l'actualité cette semaine. Depuis trois semaines, des affrontements opposent les insurgés fidèles à Laurent Kunda, à l'armée régulière. Des combats ont eu lieu encore le week-end dernier dans les collines autour de Sake, à 30 km au sud de Goma. Malgré qu'il soit sous mandat d'arrêt international et déchu de l'armée congolaise depuis l'année dernière, Laurent Kunda est resté actif sur les territoires congolais. Et en ces débuts de Troisième République, des voix s'élèvent de plus en plus pour proposer une solution à l'instabilité créée par la présence de l'ex-général et de ses hommes, les uns pour en finir militairement et les autres pour une option négociée. D'autres encore proposent de coupler le militaire à la négociation. Alors il y a le Baraza Lawazé, une structure qui regroupe plusieurs communautés du Nord Kivu, qui privilégie l'option militaire. Une délégation de ses membres, vous le savez, avait été dépêchée en fin novembre dernier par le gouvernement auprès de Laurent Kunda. Et notre consort Babel Pongo a interrogé Désiré Bouyana, le secrétaire du Barza, qui estime que les revendications posées par le général déchu montrent une mauvaise foi et que l'option militaire est la meilleure.
Laurent Kunda n'a cessé de donner des préalables comme il l'a toujours fait. Parmi les préalables qu'il a donné, il y a le retour de réfugiés qui sont prétendus être au Rwanda. Il y a la libre circulation de ces fers sans être inquiétés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a le retrait des mandats d'arrêt international qui pèsent lourdement sur sa personne et demander aux FARDC de rester dans leur position sans porter préjudice ni hostilité à ces militaires à lui.
Est-ce que c'est parce que votre démarche de négociation n'a pas marché que vous envisagez aujourd'hui une solution uniquement militaire?
Non, la population actuellement ne veut plus à ce qu'il y ait une solution négociée avec Laurent Kunda. Puisqu'on voit tout ce que Laurent Kunda est en train de perpétrer auprès de la paisible population, personne ne peut accepter à ce qu'on négocie encore avec Laurent Kunda et qu'on l'élève encore au rang de général et qu'on lui donne encore des postes de récompense.
Mais est-ce que votre position est celle de toutes les communautés qui sont au sein du Baraza?
Les communautés qui sont au sein du Baraza, la position est la même. Mais cependant, il y a des individus. Celui qui peut aller à la contre de cette position, ça doit être un individu, mais ce n'est pas une communauté. Puisque c'est que Laurent Kunda est en train de faire à partir du territoire qu'il occupe, ce n'est pas de faveur seulement de quelques communautés, c'est pour toutes les communautés. Les hostilités atteignent toutes les communautés du Nord Kivu et par conséquent, toutes les communautés sont unanimement d'accord à ce que la position militaire soit utilisée pour mettre Laurent Kunda hors d'état de nuire une fois pour toutes.
Voilà, la position militaire que privilégie le Baraza Lawazé est aussi privilégiée par le vice-président Arthur Zaidi qui dit Kunda doit être arrêté. Et c'est le titre à la une du Forum des As du lundi passé. Victor Eyobi, vous êtes rédacteur en chef de ce journal. Il y a eu aussi le vice-président Roubaix-Roy qui lui prône une position à négocier. C'est une division de la classe politique congolaise.
Je ne crois pas que c'est une division. Ce que je voudrais faire observer en premier lieu, c'est d'abord cette grande synergie des efforts, des investissements pour régler cette affaire. Vous savez, la RDC vient de passer par les élections et on pensait bien que toutes les catégories de la population congolaise devraient comprendre ces messages-là et voir comment s'investir autrement. Malheureusement, on remarque qu'il y a la témérité de l'ex-général Nkunda. Alors, je parlais tout à l'heure des synergies, c'est pour dire qu'il y a le chef de l'État qui s'est impliqué, il y a les chefs coutumiers, les notables Hutu et Tutsi qui s'impliquent dans l'affaire, il y a la MONUC qui s'est également prononcée sur des négociations éventuelles.
Avec, elle, avec une possibilité de négociation à long terme.
À long terme. Alors, tout cela, c'est pour montrer que, quelque part, Nkunda est petit à petit dans un réduit. Et surtout avec la défection de ses militaires, il y a lieu de voir comment multiplier des pressions sur sa personne au lieu tout simplement d'aller rapidement dans l'option militaire. Parce que l'option militaire, c'est toujours les populations qui sont les victimes. Et facilement, on va parler des génocides de telle ou telle population. C'est un piège dans lequel on ne doit pas tomber, quoi. Mais je crois qu'avec la synergie actuelle des efforts, on peut aller jusqu'au bout et amener le dépouiller de l'essentiel de ses soldats, le dépouiller de l'essentiel de son soutien et résoudre le problème le plus rapidement possible.
Alors, Don Pierrot Ntoukani, vous êtes en ligne avec nous depuis Matadi. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait négocier avec quelqu'un qui a déjà un mandat d'arrêt international?
J'allais commencer par là. Kunda avait été jugé et le verdict, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'on va encore négocier avec l'État? Je ne sais pas. Il faudrait que l'État congolais puisse montrer un exemple fort. Le discours du président de la République, nous avons tous suivi, finir la récréation. Et Kunda est toujours en récréation, si nous comprenons très bien. Et aujourd'hui, si on ne donne pas un signal fort, quelqu'un d'autre peut faire le Kunda dans un autre territoire ici, à travers la République. Donc il faudrait qu'on puisse donner un signal fort. Dire à ce général que la récréation est effectivement finie, terminée.
Quel signal, Don Pierrot?
L'option militaire, moi, c'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, le représentant de ceux qui vivent ça au quotidien, parce que nous pouvons juger le droit. Mais le monsieur de Barza qui a été intervenu là, lui, il vit ça régulièrement, il est avec la population, il connaît ce que la population est en train de dire. Il faudrait vraiment qu'on puisse en finir, qu'on puisse donner un exemple pour qu'il n'y ait pas d'autres Kundas à travers la République. Et c'est ce que je ne comprends pas. Comment on a laissé faire ces messieurs, la transition était là, et là où la monnaie que là, M. Kunda se promet, il reçoit la presse internationale, il est à l'aise, alors qu'il est rebelle, alors qu'il a été jugé et condamné. C'est ça le problème.
Benoît Kambéré, vous êtes grand reporter au magazine catholique Renaître. Vous entendiez Don Pierrot dire que le président a dit fini la récréation et la récréation continue un peu avec Kunda à l'Est. Est-ce un défi pour la Troisième République?
Je voudrais d'abord rappeler que le mandat d'arrêt adressé à Kunda date de 2004, c'est-à-dire 2 ans. Aujourd'hui, on est en fin 2006. Ça devrait faire réfléchir. C'est vrai, il y en a qui préconisent l'option militaire. Il faudrait. Il fut un moment où l'armée congolaise était restée.
Le mandat d'arrêt en 2005.
Hein. En 2005, oui, mais le problème de Bukavu date de 2004. Hein. C'est de là que tout cela est parti. Effectivement, le mandat date de 2005. Mais ça fait une année que ce monsieur court. Il y en a qui disent qu'on le voit à Goma, il vient faire ses achats à Goma, et au nez et à la barbe des autorités tant militaires que civiles. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on a une réelle volonté de régler ce problème? On a entendu des promesses de campagne. Il était question que le problème Laurent Kunda soit réglé dans les 48 heures. Eh bien, comme l'a dit mon confrère Don Pierrot, pour lui, la récréation est terminée. Et la récréation est terminée, ça ne doit pas être un slogan. Il faudrait qu'on trouve une solution. Je ne pencherai pas sur la solution militaire. Pourquoi? Parce que maintenant, notre armée est ce qu'elle est. On a vu ce qui s'est passé à Sake. Il a suffi que l'armée. C'est vrai, on a des troupes intégrées.
Donc pour vous, l'armée ne peut pas relever le défi Kunda?
Mais moi, je veux bien. Elle aurait pu le relever à Saké, par exemple, sans piller les paisibles populations.
Mais s'il n'y a pas d'autres considérations qui entrent en jeu et qui poussent l'armée à se réserver un tout petit peu, vous ne pensez pas?
Des considérations d'ordre politique, peut-être. Et ça, ce sont les politiques à régler ça. Et les politiques, ça fait 2 ans que ce problème court. Apparemment, il n'y a pas de volonté politique pour qu'on résolve ce problème. Tout le monde sait où est Kunda. Tout le monde sait ce que Kunda fait. Tout le monde le localise. Tout le monde sait toutes les exactions qu'il est en train de faire. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique qu'on résolve ce problème? L'option militaire, c'est vrai. Ce sont les pauvres populations de Mushaki, les pauvres populations de Saké, les pauvres populations de Kimoka, des localités que je connais très bien, qui vont encore payer le lourd tribut. Et ceux qui sont au chaud, soit à Goma, soit à Kinshasa, c'est à 2000 kilomètres, c'est encore les populations.
Maintenant, comment concilier les deux options, militaires et politiques?
Mais c'est ça le problème. Les politiciens sont là pour trouver ces solutions. On ne doit pas. Ils ont demandé des mandats, ils les ont. Maintenant, la récréation est, semble-t-il, terminée. Eh bien, qu'on passe aux actes. Et qu'on trouve des solutions, des vraies solutions, pas des plâtrages qui vont faire que la pauvre population va encore souffrir.
Célestin Bwanga Malekani, vous êtes directeur des programmes à la radio Télé Amani. Vous êtes au téléphone depuis Kisangani. Est-ce que vous pensez que le pacte, par exemple, qui doit être signé ce vendredi, peut résoudre aussi le problème Kunda?
Bon, c'est difficile, d'autant plus que le Rwanda n'est pas là. Parce que l'arrière-base de Kunda, c'est le Rwanda. Si on arrive à les chasser, c'est sans doute que les seuls lieux où ils peuvent s'enfuir, il y a bien sûr l'Ouganda, mais l'Ouganda est là-bas. Je crois que, étant donné qu'il va signer le pacte de paix, il ne va pas autoriser que lui puisse utiliser l'Ouganda comme arrière-base. Mais le Rwanda reste ouvert, même si les membres de ce sommet. Mais la vision que je voulais apporter à ce débat est celle-ci. C'est-à-dire que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a des politiciens qui sont à la base de ces choses-là. Parce que si nous voyons bien, Kunda circule et il vient à Goma pour s'approvisionner en carburant, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'entretient pas de bonnes relations avec la haute hiérarchie du SCD, hein? Est-ce que Kunda n'est pas une dernière carte du SCD, hein, pouvant l'utiliser pour en échange à des postes importants dans le gouvernement? Et c'est la question qui se pose.
Vous avez posé une question au lieu d'y répondre. Évidemment, vous avez soulevé aussi le cas du Rwanda. Liant un peu Kunda à ce sommet et au Rwanda, Victor Eyobi, est-ce que le problème Kunda n'est pas un problème tout d'abord qui doit trouver des solutions au Congo?
Oui, c'est d'abord au niveau congolais. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit que le chef de l'État est descendu dernièrement à Saké. C'est une manière de montrer combien cela le préoccupe, mais également préoccupe tous les Congolais. Sauf qu'au niveau congolais, c'est plutôt des actions fortes qui ont toujours manqué. C'est vrai que nous avions des problèmes avec notre armée, mais moi je crois que la petite rébellion de Kunda, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo qu'on va mobiliser pour aller l'éteindre. Il y a lieu que des dispositions pratiques soient prises au niveau du gouvernement, tant dans l'équipement des militaires que dans leur désignation, pour que réellement ils puissent bien mener cette opération. Vous savez, il y a le général Mbunda Mabe, quand il était là-bas, c'était parmi les espoirs de la population pour régler de tels problèmes. Et je crois qu'il ne manque pas de commandos, il ne manque pas de généraux, il ne manque pas des hommes, des troupes capables de mener des actions en faveur de la population. Mais plutôt, ils sont bloqués par une décision éminemment politique.
Et à un problème politique, faudra-t-il trouver des solutions politiques ou militaires?
Oui, d'abord politique, parce que jusque-là, les politiciens montrent que ce n'est pas à l'armée de faire son travail, mais d'abord, c'est à eux de donner les mots d'ordre en fonction des paramètres. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, on a cité les RCD. Les RCD également pèsent dans cette histoire. Il y a le Rwanda, il y a le gouvernement congolais. Il faudrait qu'on puisse harmoniser sur ces trois piliers pour pouvoir étouffer cette petite rébellion.
Benoît Kambéré, on parle trop du RCD. On a vu le RCD lui-même, son président, le vice-président Zaria Soubérois, privilégier l'option politique. Est-ce que cette option que privilégie le RCD a pour but de tirer des enchères, par exemple, dans la formation d'un gouvernement ou pour bien démarrer la Troisième République?
Est-ce que c'est le moment de monter des enchères de cette taille? Je ne pense pas. Ben, moi, je voudrais revenir encore sur l'option politique. Tout à l'heure, mon confrère Victoire a parlé du général Moussa Mabé qui a été déplacé de Bukavu. C'est une décision politique. On peut se poser la question, quel était le soubassement du déplacement du général Moussa Mabé avec le succès qu'il avait auprès de la population, avec la confiance qu'il avait de ses hommes, qu'on le déplace de là? On peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour perpétuer cette situation? Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que non, est-ce que le RCD maintenant, dans ce grand pays où il y a 200 partis, un seul parti peut narguer tous les autres partis? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ou alors on a un état fort ou on n'a pas un état fort. Ce n'est pas les revendications d'un parti. Et encore, on peut se poser la question de savoir si c'est pour ça, pour des postes, on doit prendre une population en otage.
Oui, mais terminons avec vous sur ce deuxième sujet. Pensez-vous que le problème congolais concernant Laurent Kunda doit être exporté au-delà des frontières?
Ne devrait pas, en principe. Ne devrait pas. Si le problème congolais est exporté, c'est que nos politiques sont incapables de trouver une solution. C'est vrai, si c'est la signature du pacte de stabilité, de paix et de développement est signée, en principe, on devrait se poser la question de savoir comment Kunda est encore approvisionné. Ce serait peut-être voir ces solutions, des solutions de ce côté-là. Il est toujours, ça fait plus de 2 ans qu'il est en cavale. On peut se poser la question, il vit comment? Il est soutenu par qui? Il est approvisionné par qui? Et ça, c'est le boulot des politiques. S'ils ne font pas leur boulot, bon, écoutez, moi je n'ai que ma plume. Hein.
Bientôt 10 jours depuis que l'investiture du nouveau président a eu lieu, c'est notre troisième sujet, nous allons parler de la nomination d'un premier ministre, investiture. Comme vous le savez, au cours de laquelle le président Joseph Kabila a fixé les objectifs de son mandat. Alors, à quand la constitution du nouveau gouvernement pour s'attaquer au chantier du président? À quand en particulier la nomination du premier ministre qui devra le constituer et diriger son action? La question a été abordée dans tous les sens cette semaine. Et légalement, on sait qu'il y a plusieurs étapes à franchir pour avoir un gouvernement opérationnel. Nous allons écouter Claude Kianza.
Première étape, la Cour suprême de justice devra rendre un arrêt sur la conformité à la Constitution du projet de règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. La Cour suprême de justice a jusqu'au 25 décembre pour rendre cet arrêt, soit 15 jours ouvrables à dater du jour du dépôt de cette requête. Deuxième étape, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale au cours d'une plénière de l'actuelle session du Parlement. Il faut dire que l'élection du président de l'Assemblée nationale est un enjeu important. En effet, ce poste est un poste clé dans la mesure où l'institution Parlement vient tout juste après l'institution présidente de la République. Troisième étape, une fois le bureau définitif de l'Assemblée nationale élu, ce bureau va convoquer une session extraordinaire du Parlement. Objet, dégager une majorité parlementaire qui va présenter un premier ministre au président de la République. Quatrième étape, le chef de l'État nomme le premier ministre présenté par la majorité. Cinquième étape, après consultation avec la coalition politique formant la majorité, le premier ministre forme son gouvernement. Enfin, sixième étape, le chef du gouvernement présente son gouvernement et son programme à l'Assemblée nationale. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au moins 251 députés nationaux, alors seulement l'Assemblée nationale investit le nouveau gouvernement.
Don Piero Ntoukani, vous êtes journaliste indépendant en ligne avec nous depuis Matadi. Vous avez suivi toutes ces étapes. Selon vous, combien de temps elles prendraient?
Mais déjà, il y a certains États qui ont été brûlés, enfin, j'ai extrêmement le terme, parce que nous savons, moi, avec les accords que le président de la République avait eu avec certains partis, je cite le Palou entre autres, on sait que le Premier ministre sera issu du Palou. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous venons de nous dire et ce que tout le monde connaît, c'est la Constitution. Et maintenant, il faudrait que le président de la République est lié à la parole donnée. Donc tout le monde sait que le Premier ministre sortira du Palou. Et l'accord avec l'OMP qui est majoritaire au Parlement et tout cela. Comment ça prendra? Moi, je crois que cet accord-là est une question de volonté politique. Les choses, tout le monde attend ce gouvernement parce que pour mettre en chantier tout ce que le président de la République a dit dans son discours, il faudrait qu'il y ait un gouvernement pour commencer déjà le travail. Et quelque part, je me dis que la tâche est assez rude quand même, et pour l'OMP et pour les autres. On risque de sortir du cadre juridique tel que la transition l'a défini pour la décision du Premier ministre. Parce que maintenant, nous voyons notre cadre, le cadre des négociations qui se sont intervenues bien avant les élections présidentielles. Est-ce que le Palou a fait son travail qu'il devait faire élire le président Kabila dans le Batoudou? Est-ce que Zana Mobutu, qui a aussi signé un accord avec le MP, a fait voter Kabila à l'Équateur et tout ça?
Et alors, Don Pierrot Ntoukani, vous voulez dire que ce sont les considérations politiques qui bloquent la nomination d'un Premier ministre?
Mais d'un côté, oui, parce que le président, comme je l'ai dit tout à l'heure, est lié à la parole donnée. Il a signé avec Palou, il a signé avec Zana Mobutu. Et il ne peut pas se dédier maintenant, il doit respecter la parole donnée. Donc, il y a aussi des problèmes politiques.
Victor Eyobi, vous êtes rédacteur en chef au Forum des As. Il y a la référence plus qui a titré ce vendredi « Pour gagner le pari de la bonne gouvernance et la mobilisation des énergies nationales, Kabila doit compter sur Gizenga. Le Palou réclamerait les finances, le budget, la justice et la banque centrale. » Est-ce que vous pensez que maintenant, après que les coalisés de Joseph Kabila se rendre compte qu'il a eu le pouvoir, il pose aussi des conditions et c'est ça qui fait traîner les choses?
Disons, les conditions telles que c'est rendu public là, je ne sais pas trop m'étendre sur ça. Ce qui est vrai, c'est que la famille politique du chef de l'État est en concertation, d'abord pour arrêter un programme de gouvernement par consensus, c'est-à-dire que tous les alliés doivent apporter quelque chose dans ces programmes-là pour s'y retrouver finalement. Et ce n'est qu'après qu'on pourra réellement parler du problème des postes. Malheureusement, dans l'opinion, c'est plutôt la fin des choses qui est mise à l'avant-plan plutôt que de voir tous les processus qui doivent conduire à la formation de ces gouvernements. Tout à l'heure, Claude Kianza nous a rafraîchi la mémoire avec les longues étapes qu'il faut suivre. Vous savez, nous sommes dans un état des droits et nous devons un peu changer la manière, la pratique de l'affaire politique dans notre pays.
Donc le programme devrait prendre la primauté sur les appétits politiques.
Sur les appétits politiques, sur le partage des postes. Parce que vous allez partager les postes, mais pour en faire quoi? On ne sait pas exactement où on va. Nous voulons une République qui va s'attaquer, comme on l'a dit, aux cinq chantiers du chef de l'État. Il y a les attentes de la population. Il faut intégrer tout cela. Et puis chaque composante ou famille politique, parti politique avait au départ sa vision. Maintenant, il faudra voir comment mouler cela dans un programme commun. C'est sur base de ces programmes-là, qu'on pourra trouver les différents membres du gouvernement, les différents acteurs capables de réaliser cet objectif. Le problème des postes ne se pose pas tellement. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a les entreprises qui vont venir, il y a la diplomatie. On l'a vu avec le 1+4, il y a autant de postes, mais c'est pour en faire quoi? C'est ça la grande question.
Mais vous dites qu'il y a autant de postes, est-ce que les postes, le nombre de postes correspond au nombre d'appétits?
Oui, à propos des postes, il n'y a pas que le gouvernement, je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les différents alliés, ils sont plus de 200. Tous ne pourront pas avoir des représentants au gouvernement où on aura environ 46 membres. C'est trop peu. Mais les autres
pourront se retrouver. Donc il y a lieu de s'apaiser d'abord, de voir quels sont les objectifs que nous voulons poursuivre pour réaliser la vision du chef de l'État, répondre aux attentes de la population. Sur base de cela, on va désigner des ministres, on va présenter des ministres qui pourront être nommés sur base de la procédure, mais c'est par après qu'on pourra voir comment répondre aux aspirations de chacun dans les entreprises, à la diplomatie et partout là.
Alors Célestin Bouanga Malekani, vous êtes directeur des programmes à la radio, à la télé à Mani, vous êtes toujours avec nous en ligne depuis Kisangani. Est-ce que la nomination d'un premier ministre urge?
Bon, ça irge dans la mesure où les gens attendent et puis il faudrait déjà qu'on fasse montrer aux gens que c'est déjà la fin de la récréation. Alors, j'ai suivi hier l'honorable Lambert Mende, secrétaire général de l'AMP, s'expliquer sur la télévision congolaise. Selon lui, le retard s'explique par le fait que les membres de la plateforme politique de la majorité ça termine à élaborer d'abord le programme. Ce qui compte, c'est d'abord le programme, ce n'est pas d'abord les individus qui vont composer le gouvernement. Mais je crois qu'il faut tenir compte aussi d'autres facteurs, comme la communauté internationale. Et selon ce qu'on apprend, la communauté internationale aussi a déjà à proposer ou à imposer dans le gouvernement. Et les appétits, comme vous en aviez parlé, les appétits des membres de l'AMP et des appétits aussi d'autres un membre peut-être de l'opposition qui voudrait aussi entrer au gouvernement. Et tout ça, il faut gérer, je crois.
Alors, Benoît Kambéré, vous avez entendu, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. On a cité l'aspect légal, on a cité l'aspect politique. Il y a même Célestin Bouanga qui a ajouté l'aspect international. Qu'est-ce que vous avez comme réaction par rapport à tout ça?
Ben, d'abord, je veux dire qu'on est rattrapé par toutes les erreurs qu'on a commises. En fait, Ce processus électoral a été renversé, est allé à l'envers. On aurait suivi le schéma proposé au dialogue intercongolais, on ne trouverait pas ces problèmes. C'est-à-dire commencer par les élections au niveau local, passer par les provinciales, arriver au national et terminer par les présidentielles, on n'aurait pas retrouvé ce problème. Malheureusement, les politiques congolais ont l'art d'esquiver des problèmes au lieu de les résoudre. Et quand on esquive un problème, il nous rattrape toujours. Voici encore un autre exemple. Bon, c'est vrai, il y a mille aspects, il y a pléthore de politiques. Je vais rebondir sur ce qu'a dit mon confrère Victoire tout
oui,
à l'heure.
Très rapidement, dans une minute, nous terminons.
Tout à fait. L'appétit ou le problème des postes. Il en parle de façon tellement aisée que le politicien congolais, il n'est là que pour les postes. Maintenant, on voit le problème de poids politique. Tel il prétendait qu'il était ceci, qu'est-ce qu'il a amené dans la balance? Rien. Il a combien de députés? Qu'est-ce qu'il a fait pour faire élire le chef? C'est tout ça. Il y a aussi le problème de maintenant, le Premier ministre, chef du gouvernement, responsable devant le Parlement. Est-ce qu'il va appliquer la politique du chef de l'État? Parce que déjà, dans les discours d'investiture, lui, il a donné son programme. Est-ce que c'est le programme du Premier ministre, chef du gouvernement, responsable devant le Parlement? On peut se poser la question. C'est pour ça que maintenant ça traîne en longueur, les gens se tirent dessus, parce que on doit le rappeler, il n'y a pas une majorité auprès de dans l'Assemblée nationale.
Si nous négligeons tous ces aspects, Benoît Kambéré, très rapidement, nous allons terminer avec vous. Mais est-ce que l'aspect compétence n'a pas sa place dans tout ce qu'on dit?
Hélas, l'aspect compétence a sa place. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Maintenant, c'est la gloutonnerie de certains politiques qui fait traîner les choses. Il faudrait que moi, je me retrouve, il faudrait que tel se retrouve à un poste pour que ça marche. Et c'est assez dommage.
Ouais, pas assez de temps pour continuer. Dialogue, non. Tribune de la presse d'aujourd'hui, c'est fini. Merci à tous nos confrères. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission et ceux qui l'ont élaborée. Pour ceux qui nous ont ratés ce soir, la rediffusion en FM, c'est demain à 5h30 heure de Kinshasa, donc une heure de plus à l'est du pays. Vous pouvez nous réécouter aussi sur 11 690 kHz, donc en onde courte de 5h à 7h heure de la capitale. Retrouvez également cette émission sur votre site internet www.radioocapi.net. Vous pouvez y joindre aussi vos réactions. Restez en compagnie des programmes de Radio Okapi et à la semaine prochaine.